Bonjour, bienvenue sur nos bonnes ondes locales. Nous vous retrouvons, amis auditeurs, pour une nouvelle année et une nouvelle chronique du passé. Nous vous présentons chaleureusement nos meilleurs vœux. Bonjour Rémi.
Bonjour Martine. Meilleurs vœux et bonjour à tous. Et pour ce début d'année, que partageons-nous avec nos auditeurs?
Une belle histoire, celle de l'horlogerie royale de Bourg-en-Bresse.
Nous l'évoquons ensemble après avoir écouté quelques notes de Rimsky-Korsakov. Une manufacture d'horlogerie à Bourg-en-Bresse, c'est étonnant, au pays de l'agriculture.
Mais tout à fait. Nous sommes sous l'Ancien Régime, avant la Révolution. Les édiles s'interrogent. Comment offrir des emplois pour permettre à la classe indigente de mieux vivre? Comment exploiter une main-d'œuvre disponible?
Pourquoi choisir de l'horlogerie?
Remontons le temps. La révocation de l'édit de Nantes par Louis XIV en octobre 1685 provoque l'exode de nombreux horlogers protestants. Ils emportent leur savoir-faire. La France et Paris perdent beaucoup de leur importance et diverses tentatives de recréer l'excellence française échouent. En outre, des Genevois sont présents à Paris et ils font, je cite un rapport d'étude, un commerce d'horlogerie au moyen de l'emploi de mouvements qu'ils achètent dans le pays de Gex.
Et cette situation n'est pas très satisfaisante pour les finances du royaume.
Ce commerce qui s'exerce à Paris profite aux Genevois. Et l'objectif est donc de le rapatrier en France, de la fabrication à la vente. C'est ainsi que l'intendant de Bourgogne, c'est l'équivalent d'un préfet de région aujourd'hui, propose de créer une manufacture d'horlogerie à Bourg, en province de Bresse, là où il y a de la main-d'œuvre et un manque d'industrie. Le projet concerne la ville de Bourg, mais le maître d'œuvre est la province de Bresse, l'institution administrative qui couvre la Bresse et la Dombes, ou plus simplement la partie ouest du département de l'Ain actuel.
L'idée est généreuse, mais n'est-elle pas quelque peu saugrenue et peut-on transformer des paysans en horlogers?
Eh bien, figurez-vous que Bourg et Césaria comptent déjà des horlogers qui ont eu pignon sur rue à Paris. Pourquoi ne pas les solliciter pour prendre la direction du projet? Pour leur pays de Bresse, ils s'engageront dans ce qui s'appelle la manufacture d'horlogerie. Un long mémoire est rédigé en 1760 avec tous les détails d'une organisation rationnelle.
En quoi le projet est-il intéressant? Je dirais même séduisant.
Comme toute industrie, l'horlogerie souffre de la concurrence commerciale, mais aussi du départ des meilleurs ouvriers qui vont tenter leur chance ailleurs. Pour éviter tout ça, il faut diviser les tâches, recruter un bon directeur et des jeunes gens en capacité d'apprendre. L'objectif sera de former et de spécialiser les ouvriers sur des outils modernes. Ils seront ainsi plus productifs pour la fabrication d'éléments d'une montre. Ils n'en sauront pas fabriquer l'intégralité et, par leurs connaissances limitées, ils seront contraints de rester dans la manufacture, de travailler pour elle, dans leur intérêt. Au départ, pour les encadrer, on recrutera des spécialistes en pays de Gex, des Français qui préféreront travailler pour le royaume plutôt que l'étranger.
C'est du taylorisme bien avant l'heure.
Oui, le mot n'existe pas encore, mais cela y ressemble. Les édiles s'activent. La direction est confiée aux frères Guillaume et Adrien Castel de Bourg, qui ont travaillé à Paris et à Londres et qui jouissent d'une bonne réputation. Ils sont originaires d'Arnans, le village dominant la vallée du Suran.
Chacun sait que l'investissement sera lourd et qu'il faudra du temps pour supplanter l'horlogerie genevoise.
Oh, les choses vont vite. Une convention est signée avec les directeurs en janvier 1764. La province de Bresse achète la maison Montaplan à Bourg, près de la Porte de Lyon, à proximité de l'actuel Square Joubert. La manufacture est aussitôt installée et l'intendant de Bourgogne demande à l'astronome récent Jérôme de Lalande, qui a ses entrées à Paris, d'intervenir auprès du pouvoir pour que la manufacture obtienne rapidement le titre de manufacture royale. Ce titre est obtenu dès le 12 août 1766, avec tous les avantages qui y sont liés.
Pour acheter cette maison et les machines de la manufacture, il faut de l'argent, même beaucoup.
Bien, la province l'emprunte aux dames Ursulines de Châtillon-les-Dombes et à M. Varenne de Fenille.
Quels sont les débuts de la manufacture, Martine?
Les frères Castel achètent les machines nécessaires à l'établissement. Mais les spécialistes du pays de Gex ne viennent pas, car ils n'ont pas voulu remettre en cause leur situation dans leur pays natal. Ils sont remplacés par des ouvriers lyonnais, mais à un coût supérieur aux prévisions. La manufacture forme néanmoins des élèves.
Les frères Castel ont été engagés pour 3 ans, mais au bout de 2 ans, ils sont reconduits pour une nouvelle période de 5 ans. Où en est la manufacture?
Elle compte alors 36 élèves, mais les frères Castel ne tirent aucun revenu pour eux-mêmes. Comme ils sont d'un certain âge, pour la nouvelle période qui s'ouvre, ils souhaitent qu'il y ait toujours de bons maîtres directeurs à la manufacture. Alors, pour être secondés, ils engagent les 3 frères Goiffon de Césaria, Albert, Antoine et Jean-Joseph, et François Berthaud de Bourg.
Cela fait 6 directeurs associés. La manufacture se trouve-t-elle confortée?
Oh, pas tout à fait. La manufacture ne fabrique pas suffisamment de montres pour atteindre ses objectifs. Il lui est suggéré d'augmenter le débit, de produire un meilleur marché et d'avoir un représentant à Paris.
Cela fait beaucoup d'insuffisances. Quel est alors son effectif?
En février 1769, elle regroupe 46 hommes. 6 directeurs, 6 ouvriers spécialisés, 4 finisseurs et 30 ouvriers ou élèves. Oh, c'est dommage. La production de montres n'est pas indiquée. 4 mois plus tard, un autre rapport précise, et je cite, que l'on s'est principalement occupé à former des élèves. Les ouvriers du pays de Gex ne viendront jamais en Bresse. On inverse le mouvement. Et on envisage de déléguer un directeur en Pays de Gex pour convaincre les horlogers locaux de travailler pour la manufacture de Bourg.
Cette idée ne semble pas avoir de suite. Et à Bourg, on s'engage aussi dans un autre fonctionnement.
La société est dissoute. Une nouvelle convention est signée jusqu'au terme des 20 ans. Chaque directeur travaillera pour son compte personnel en utilisant les machines mises en commun, mais sera redevable d'un 1/5 de la somme engagée dans l'entreprise. Les directeurs ne sont plus que 5, car l'un des frères Castel est décédé.
Des événements surviennent à Genève à cette période.
Des troubles agitent la ville suisse pour des revendications de droits entre bourgeois et natifs. Si bien que des horlogers quittent la ville pour s'installer en France. Pourquoi ne pas les attirer à Bourg ? Ou installer une succursale de la manufacture en Pays de Gex.
Ces démarches sont entreprises, mais un homme influent est plus réactif et prend de vitesse les Bressans.
Il s'agit de Voltaire, l'homme de lettres, installé dans son château de Ferney. Pour attirer les nouveaux immigrés de Genève, il leur propose d'établir une horlogerie dans sa ville. Il leur prête de l'argent construit des logements, des conditions idéales pour séduire.
Et Voltaire réussit son projet.
Il crée une horlogerie et utilise ses relations pour vendre la production à Paris. Il se permet même d'ajouter le qualificatif de royal à sa manufacture sans en avoir les lettres patentes, c'est-à-dire l'autorisation. Son affaire prend vite de l'ampleur. Et en quelques mois de l'année 1770, les effectifs passent de 40 à une centaine d'ouvriers. En 1773, sa manufacture produit 4000 montres.
Le coût est rude pour la manufacture de Bourg, qui n'implante donc aucune succursale en Pays de Gex.
Elle n'avait pas besoin d'une telle concurrence, d'autant qu'une manufacture royale a été installée à Lyon. L'entreprise Bressane périclite, car elle est restée spécialisée dans les montres de grande qualité. Elle n'a pas diversifié ses produits, et de là sa clientèle.
Il est l'heure de faire l'examen de la situation. L'initiative revient aux directeurs qui n'y trouvent pas leur compte dans la manufacture. Ils sollicitent la province en octobre 1775 pour dénoncer la convention qui les lie.
Les édiles acceptent l'échec de l'entreprise, mais reconnaissent le plein investissement des directeurs. Ils admettent leur part de responsabilité de l'échec, car ils se sont peut-être engagés avec trop d'enthousiasme au départ. D'autres tentatives d'implantation ont aussi échoué dans la province, comme la blanchisserie de Montluel, ou la manufacture de toiles de Pontevelle pour des investissements similaires. Néanmoins, le bilan de l'horlogerie n'est pas négligeable, car 300 jeunes gens de la province ont appris un métier.
C'est donc la liquidation.
Il n'y a guère d'autre solution. La province récupère la maison de Montaplan, qu'elle vend en 1777. Elle essaie aussi de vendre les différentes machines, mais sans grand succès, car elles sont déjà dépassées. Le dernier document concernant la manufacture est daté du 8 mai 1788.
Avec le recul, que pouvons-nous ajouter ?
Que l'idée a été généreuse, mais qu'elle n'a pas été portée par un homme de la profession. Ensuite, la Bresse n'avait pas de tradition manufacturière, et par sa population peu nombreuse, sans grande ville, elle n'offrait pas beaucoup de débouchés. Et puis, Bourg était à 4-5 jours de Paris, avec des communications soumises aux aléas de la météorologie. Au total, cela faisait beaucoup de complications à surmonter.
Que s'est-il passé ailleurs ?
La manufacture de Ferney, en Pays de Gex, a été active tant qu'elle a été portée par Voltaire, mais il décède en 1778. Ses successeurs n'ont pas le même dynamisme. Et la manufacture périclite pour cesser son activité en 1792.
Il était donc difficile de créer une horlogerie.
Sans aucun doute. Le projet de Bourg arrivait peut-être trop tôt, à un moment où la mécanisation n'était qu'à ses débuts. Car les idées émises à Bourg sont appliquées par Frédéric Japy en 1776 dans le Doubs, à Beaucourt. En investissant plus massivement dans du personnel qualifié et des machines-outils, il réussit à implanter l'horlogerie dans le Doubs. Et lorsqu'il se retire des affaires en 1806, il laisse une entreprise florissante à ses trois fils. La marque Japy doit évoquer des souvenirs à nos auditeurs, car la marque s'est beaucoup diversifiée.
S'ils ont l'occasion d'être dans la région de Belfort, nous les invitons à visiter le musée Japy à Beaucourt. Martine, nous terminons ?
Nous terminons en donnant rendez-vous à tous nos auditeurs pour la chronique de février. Merci à tous et nous nous quittons avec Claude Nougaro qui chante Le coq et la pendule, bien sûr.
Dans une ferme du Poitou, un coq émet une pendule. Tous les goûts sont dans la nature. D'ailleurs, ce coq avait bon goût. car la pendule était fort belle et son tic-tac si doux que le temps ne pensait surtout qu'à passer son temps auprès d'elle dans une ferme du Poitou. Un coq aimait une pendule de l'aube jusqu'au crépuscule et même la nuit comme un hibou. L'amour le rendant coctambule, des cocoricots plein le cou, le coq rêvait à sa pendule du Poitou, du Poitou. Dans une ferme du Poitou, un coq aimait une pendule, ça faisait des conciliabules chez les cocottes en courroux. Qu'est-ce que c'est que ce coq, ce cocktail, ce drôle d'oiseau, ce vieux coucou qui nous méprise et qui ne nous donne jamais un petit coup dans l'aile. Dans une ferme du Poitou, un coq aimait une pendule. Ah mesdames, vous parlez d'un Jules, le voilà qui chante à genoux. Oh ma pendule, je t'adore, ah laisse-moi te faire la cour. Tu es ma poule aux heures d'or, mon amour, mon amour.